Nous tous qui sommes ici dans ce temple de Pandemon, ceux qui se joignent à nous par le lien audiovisuel, souvenons-nous que nous sommes tous frères et sœurs, convoqués par le Père qui veut nous nourrir de son amour et de sa parole. Que nous sommes venus le cœur léger ou lourd, fatigué ou plein d'élan, triste ou joyeux, pauvre ou riche, à nous tous est donnée la grâce et la paix de notre Seigneur. Puis que la paix de Dieu, la lumière de Dieu, soit avec nous tous pour ce temps de culte et que son esprit inspire nos prières, nos chants, habite nos paroles et nos cœurs. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver après une si longue absence de congé sabbatique depuis le début du mois de janvier. Permets-moi de rappeler que notre Église, depuis quelques années, permet de vivre un tel congé de 4 mois aux pasteurs qui ont eu plus que 25 ans de ministère. Et c'était bien mon cas. Et c'est donc ces 4 mois de congé sabbatique que j'ai pris. Je me disais, mieux de faire cela aujourd'hui que 2 ans avant la retraite en quelques années. Et c'est un temps béni, malgré la restriction de la crise sanitaire qui est parfois compliquée, les déplacements, permis de faire beaucoup de tests, parfois de quarantaine aussi, en venant aux Pays-Bas par exemple. J'ai pu vivre le programme prévu un peu dans différents lieux, en Savoie, en Bretagne, dans 2 monastères différents, aussi chez des amis, en montagne, de la famille. Dans le prochain LPL, je vous donnerai un écho un petit peu plus sur ces 4 mois que j'ai pu vivre, avec de belles rencontres, de moments de grâce, un temps de respiration. Après 15 ans à Paris, dans 2 paroisses différentes avec le rythme parisien, c'était bien de prendre ce temps de ressourcement, de respiration, de voir des amis que je n'avais pas vus depuis 20-25 ans parfois dans mon pays. Le mois d'avril du confinement tout d'un coup a annoncé de changer mon programme. J'avais prévu de randonner, je l'avais écrit dans la LPL, sur la route d'Assise ou de Saint-Jacques. Mais ça a été la communauté de Thésée qui m'a accueilli pour tout le mois d'avril. J'ai pu vivre avec les frères, en partie un peu à l'intérieur de la communauté, ce qui était une expérience extraordinaire. Mais j'ai écrit un petit mot dans la LPL que vous recevrez prochainement sur ces 4 mois. Heureux de vous revoir, chacun, chacune, et de se retrouver. Je vous invite à un instant de prière. Tu nous connais tous, Seigneur, par notre nom. Nous sommes importants pour toi et nous sommes écrits sur la paume de ta main, chacun, chacun de nous. Nous t'en prions, puissions de notre côté apprendre ton nom, le connaître avec notre cœur et en vivre vraiment, ton nom que tu as révélé, que tu as fait aimer en Jésus-Christ. En lui, tu t'es montré notre Père. Il est ta parole, ta promesse pour notre vie, dans tout ce qu'il accomplit, hier comme aujourd'hui, pour réjouir les hommes et les attacher à toi. Nous te prions, permets-nous d'être attirés vers lui, pour grandir chaque jour davantage en ton intimité. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter le psaume 65. La mélodie affichée est un petit peu différente de ce qu'il y a dans notre recueil. Nous chantons la mélodie comme nous le connaissons, comme il est dans notre recueil. Ce beau psaume 65
Vers toi, Seigneur, font nos louanges dans ta maison de paix. Ô Dieu, reçois cette humble offrande où ton amour se plaît. Vers toi qui entends la prière, tout homme un jour viendra. Du poids trop lourd de sa misère, tu le déchargeras. Chantons les trois couplets affichés. S'asseoir. Dans l'évangile de Jean, dont nous lisons tout à l'heure justement un passage où Jésus prie pour ses disciples, où il donne un dernier discours avant de les quitter, d'être arrêté dans la nuit, il leur donne ce qu'il appelle un commandement nouveau, où il résume finalement pourquoi il est venu. Une phrase simple et lumineuse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. C'est dans le Nouveau Testament, dans les différentes épîtres, qu'on va mettre de mots plus concrets sur cet aimez-vous les uns les autres dans cette vie communautaire de premier chrétien. Paul écrit par exemple, ne nous jugeons plus, nous n'en jugeons plus les uns les autres. Aux Corinthiens, Paul écrit, ayez soin les uns des autres. Et aux Galates, il écrit ceci, portez les fardeaux les uns les autres. Aux Éphésiens, soumettez-vous les uns aux autres. Aux Philippiens, Paul écrit dans l'humilité, estimez l'autre supérieur à vous-même. Ainsi, ces auteurs du Nouveau Testament nous disent ce que c'est d'aimer les uns les autres au quotidien de notre vie. Et nous savons que nous y arrivons si peu à cette parole lumineuse vers laquelle nous sommes appelés. j'invite à la prière. Seigneur, toi qui as des paroles de vie pour nous, nous te demandons pardon pour toute parole de notre bouche qui a pu blesser, voire humilier un proche, un ami, quelqu'un. Nous te demandons pardon pour toute parole de notre bouche qui a promis des choses que nous n'avons pas mises en pratique, ces paroles qui n'ont pas suivi de nos actes. Nous te demandons pardon, toi qui dis des paroles de vérité, pour toute parole de notre bouche qui t'est messagère, quelle qu'en soit la raison. Nous te demandons pardon pour nos silences, quand ils ont été un refus de la parole, du dialogue avec l'autre, pour nos non-dits et nos enfermements silencieux. Nous te demandons pardon de prendre si peu de temps pour t'écouter dans ta parole ou pour te prier. Toi, notre Père, qui nous invite à te rencontrer comme un enfant rencontre dans la joie son père, sa mère. Mais Seigneur, pour tout cela, nous voulons te demander pardon du fond de notre cœur et en comptant sur ta parole libératrice et vraie de siècle en siècle qui est Jésus-Christ, notre pardon. Amen. Je vous invite à vous lever. Dans l'épître de Jean est écrit ceci: si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Oui, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos blessures, nos souffrances. Oui, Jésus-Christ est plus grand que notre cœur. Il est allé jusqu'au bout, lui, le Fils de Dieu, de l'amour qu'il a vécu jusqu'au bout, juste dans sa mort. Il nous libère de nos peurs et nous pardonne nos péchés. Il guérit nos blessures. Oui, l'Esprit Saint, plus grand que notre cœur, il nous console, le grand consolateur. Il nous maintient dans une communion avec Dieu. Quoi qu'il arrive, sa force vient du ciel, au-delà de tout, et Dieu a mis son esprit dans nos cœurs. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne, il nous envoie vers nos frères et sœurs. Amen. Je vous invite à chanter « Oh que ces choses belles te louer, Seigneur ». Les deux couplets. Chantons.
Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ton splendeur au milieu de fidèles.
Il y a des psaumes comme ça avec des paroles et des mélodies rassemblées dont on ne se lasse jamais. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais un tel chant, ça met vraiment dans la joie devant Dieu, avec vous, ensemble. Et c'est chanter ainsi, c'est effectivement louer. On est là aussi pour cela, pour être dans la joie ensemble sous le regard de Dieu. Et ces cantiques qui nous viennent de si loin, avec leur mélodie depuis des siècles, nous portent aujourd'hui encore. Merci. Nous pouvons dire notre foi. Je vous propose un texte de Ambroise de Milan. Vous avez ce grand évêque de Milan qui faisait d'ailleurs face à l'empereur romain à l'époque, mais surtout aussi qui a marqué tellement le Saint-Augustin que je l'ai renversé et mis sur le chemin vers le Christ. Quand Augustin, jeune homme, a entendu Ambroise prêcher à Milan. Mais ce texte est tout simple et va directement à l'essentiel de notre foi qui est le Christ pour nous. Approchons-nous avec assurance, donc un texte du 4e siècle. Approchons-nous avec assurance du Seigneur de grâce. Car nous avons tout pleinement en Christ. Veux-tu guérir? Christ est le médecin, comme il a dit. Es-tu accablé par tes fautes? C'est lui qui te justifie. As-tu besoin de secours? Il vient te fortifier. Si tu es plongé dans la nuit, sache que le Christ est ta lumière. Es-tu perdu? Oui, pour toi aussi, il est le chemin. Veux-tu fuir le mensonge? Il est la vérité pour toi. Es-tu troublé par la mort? Christ est la vie. Il est ressuscité pour chacun de nous. Heureux l'homme, la femme, qui met son espérance en Jésus, le Seigneur vivant. Amen. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour de Dieu. Nous allons chanter ce chant joyeux. Alléluia, Jésus, ton nom. Chantons les 4 couplets indiqués.
Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre paix, car il unit les noms de tous, tout est. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre espoir, car seul tu as vaincu la mort et pour toujours. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, ton nom est notre joie, car nous pouvons s'aimer aussi dans ton amour. Alléluia, 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 alléluia.
peut s'asseoir. Je vais maintenant recevoir la nourriture de la parole. À travers la parole, le Christ qui nous rejoint comme une parole vivante. Trois textes ce matin qui sont les textes du jour. Passage des Actes des Apôtres qui se situe après que Jésus est monté au ciel. C'était jeudi dernier, la fête de l'Ascension, fête chrétienne. Et avant la fête de Pentecôte, 10 jours après, les disciples se rendent compte qu'il y a un qui manque. Judas, qui s'est suicidé après qu'il avait trahi Jésus. Ils font de manière un peu étonnante désigner un 12e apôtre à nouveau. Vous allez attendre cela dans donc, les Actes des Apôtres. Après quelques paroles de cette magnifique première lettre de Jean, où il y a cette phrase, c'est la seule phrase dans tout le Nouveau Testament, je crois, dit « Dieu est amour ». Et nous sommes appelés à vivre de cet amour-là. Ensuite, l'évangile de Jean, où on se situe encore avec Jésus avant qu'il va quitter ses disciples dans cette dernière soirée, son dernier repas avec ses disciples, où il a posé des gestes, comme le lavement de pieds, j'en dirai un mot, rompu le pain et le vin, et un discours, mais il termine avec une longue prière pour ses disciples, et nous écoutons une partie de cette prière de Jésus pour ses disciples, qui leur laisse comme une sorte de testament. Nous allons écouter maintenant par Colette ces trois textes.
Dans le chapitre des Actes, au chapitre 1, versets 15 à 17, puis au verset 20 à 26. Un de ces jours-là, les croyants réunis étaient au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu d'eux et leur dit : Frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture. S'exprimant par l'intermédiaire de David, il y a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. Judas était l'un de nous et il avait reçu sa part de notre mission. Un peu plus loin, au verset 20. Or, voici ce qui est écrit. Plus près, bon, d'accord. Excusez-moi. Or, voici ce qui est écrit dans le livre des psaumes. Que sa maison soit abandonnée et que personne n'y habite. Et il est encore écrit qu'un autre prenne sa place et ses fonctions. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet homme doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout ce temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il nous a été enlevé pour aller au ciel. On proposa alors deux hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé aussi Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans cette fonction d'apôtre la place que Judas a quittée pour aller à celle qui lui revenait. » Ils tirèrent alors au sort et le sort désigna Matthieu qui fut associé aux 11 apôtres. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, versets 11 à 16. « Mes chers amis, Si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que Dieu demeure uni, que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Ceux qui demeurent dans l'amour demeurent unis à Dieu et Dieu demeure en lui. Dans l'épître de Jean, au chapitre 17, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, versets 11 à 17. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre pour que l'Écriture se réalise. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du malheur, du mauvais. Ils n'appartenaient pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi pour le moyen de la vérité. Ta parole et la vérité. Amen.
Merci Isabelle pour ce beau cantique de Thésée, ce chant de Thésée qu'elle vient de jouer, de Thérèse d'Avila. Nada te turbe, nada te spante. Dieu, Dios solo basta. Dieu seul suffit, n'ayons pas peur. Une semaine avant de célébrer la fête de Pentecôte, les trois textes bibliques proposé à notre méditation, oriente notre regard vers les disciples de Jésus. Le Christ ressuscité est monté au ciel, définitivement c'est désormais cette communauté d'hommes et de femmes qui ont été témoins de sa vie, de sa mort terrible sur la croix, mais aussi de cette expérience bouleversante de la résurrection, qui font poursuivre ce que Jésus a commencé sur terre. C'est en quelque sorte à travers eux que Jésus sera désormais présent parmi ces hommes, parmi les hommes, que son message va se répandre comme une semence de vie nouvelle, offerte aux hommes par Dieu, par le Christ vivant. Et cette vie nouvelle se manifeste d'abord par la naissance d'une communauté, ceux qui se découvrent, frères et sœurs, des hommes et femmes qui sont habités par le souvenir de leur maître Jésus, habités par le souvenir de sa manière de vivre, sa manière d'aller vers les autres, ses actes de bonté, toute la confiance qu'il a mis en Dieu, souvenir de sa mort et de cet acte de Dieu qu'il a ressuscité pour dire « Celui-ci était vraiment mon Fils. Pour vous, le chemin, la vérité et la vie est pour tous les hommes. » Parce que ceci, c'est là ce que Dieu dit dans l'acte de ressusciter Jésus. Jésus sera désormais présent aussi à travers ses disciples. Et Pentecôte, c'est en quelque sorte bien cela, c'est l'Esprit de Jésus qui vient saisir avec force le cœur de ses disciples pour qu'ils soient vivants désormais à travers et en eux. Absent des hommes parce qu'il est monté au ciel, il va être présent d'une manière nouvelle, spirituelle, intériorisée dans le cœur des hommes et des femmes, en mettant en eux cet même esprit de confiance dans le Père, cette même espérance en Dieu, cette même recherche de fraternité. Tout ce qui habitait Jésus devrait désormais habiter sa communauté, nous, les hommes. Le même esprit de ce qu'on a vu de manière concrète dans la vie de Jésus et dont les évangiles nous parlent. Les trois textes ce matin nous rappellent plusieurs choses essentielles en rapport à cette communauté qui se crée par l'esprit de Jésus, qui devient vivante en eux. Trois choses essentielles pour dire ce qui est l'Église, finalement, qui vit dans le nom, dans l'esprit de Jésus. Et d'abord, ce curieux détail du tirage du sort pour désigner un douzième apôtre, s'y revient, mais qui dit l'étonnante conscience de premiers chrétiens qui sont bien plus qu'une communauté humaine, mais une communauté suscitée par Dieu lui-même. L'esprit de Jean nous centre sur cette unique nécessaire à vivre qui doit caractériser cette vie nouvelle des hommes et femmes qui veulent vivre de Jésus. C'est une communauté qui vit de son amour et le met en pratique. Et troisièmement, la prière du Christ pour ses disciples, nous rapportée seulement dans l'évangile de Jean, nous rappellera que le premier acte qui fonde toujours à nouveau la communauté chrétienne vit est la prière, la relation à Dieu, la relation au Père de Jésus qui agit encore aujourd'hui dans notre vie. Première vue, c'est un peu anecdotique, je ne sais pas ce que vous avez pensé, cette histoire du tirage entre deux candidats pour remplacer Judas. Pourquoi ce tirage au sort? Mais les dix, parce que Dieu connaît le cœur. Il crée comme ça un espace pour Dieu, pour agir, pour prendre l'initiative. Et finalement, cet acte un peu curieux de cette première sorte d'assemblée générale de premiers chrétiens est comme une confession de foi extrêmement importante sur ce qui est, veut être cette communauté. L'Église est d'abord l'affaire de Dieu. C'est cela qu'ils ont compris et qui s'exprime à travers cela. Dieu merci, l'Église est d'abord l'affaire de Dieu. Si ce serait que l'affaire des hommes, l'Église sera déjà plus là, sans doute. Parce que l'Église traverse des crises. Si ces derniers temps encore traversé des crises, je ne pense pas seulement aussi de crises sanitaires, mais d'autres crises que l'Église, je pense aux
pédophilie des prêtres. L'Église est d'abord une affaire de Dieu. C'est pourquoi elle renaît toujours, à nouveau. Si ce n'est pas ici, c'est là, à côté de nous, ou dans d'autres pays, d'autres continents, à Paris. L'Église est toujours en train de renaître et on le voit. Ce qui compte dans l'Église, ce n'est pas ce que nous en voulons faire, mais ce que Dieu veut faire avec notre vie. Et c'est toute une autre chose. Au tout début de la communauté chrétienne, déjà durant la vie de Jésus, il y a l'initiative de Jésus qui appelle des hommes. C'est lui qui prend l'initiative. C'est Dieu qui a l'initiative de l'Église. Ce n'est pas une invention des hommes après la mort et la résurrection du Christ pour survivre à cette crise-là. Non, Jésus déjà a commencé à rassembler les hommes. Et encore veut le faire aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui. Et sans doute parfois nos traditions ecclésiales, humaines, peuvent presque empêcher un petit peu de ce que le Christ veut faire aujourd'hui. Parce que l'esprit de Christ est toujours un esprit créatrice, créateur, qui veut faire des choses nouvelles avec nos vies, au milieu de nous. Et Pentecôte, c'est bien cela. Cette croyance que l'Esprit de Dieu peut faire des choses nouvelles, aujourd'hui encore, si pour son Église. Et qu'il y a plein de lieux où l'Église est en train de grandir, peut-être pas toujours en France, mais aussi en France, en certains lieux. Mais ailleurs, certainement. Ou les virages nouveaux que l'Église prend. Et sans doute cette Église, j'ai été impressionné aussi en voyageant donc un peu dans mon pays, les Pays-Bas, comment partout les Églises se sont adaptées à cette période compliquée de crise. Partout les Églises ont su s'adapter à cette nouvelle réalité de faire des cultes télévisés en touchant un public bien plus important qui touchait avant. Aux Pays-Bas, pareil. Comme ici en France, avec plein de choses nouvelles qu'on peut trouver aussi sur Internet où des chrétiens s'expriment. Tout un foisonnement comme une sorte de Pentecôte dans nos pays. L'Esprit du Christ est toujours créateur. Là où nous accueillons vraiment cet Esprit du Christ, il se passeront des choses nouvelles. Une chose que l'Esprit fait à Jérusalem, c'est créer donc une communauté. Parce que le message du Christ est d'abord une manière de vivre. Il faut répandre cette bonne nouvelle le jour de Pentecôte. Mais d'abord, il commence à le vivre dans l'esprit de Jésus. Être chrétien selon la manière de Jésus est d'abord une manière de vivre les uns avec les autres. Et ce que les premiers chrétiens ont très vite compris dans la communauté qui vit de l'Esprit de Jésus, de cette recherche de l'amour fraternel, qui est le signe par excellence, qui compte le plus dans cette communauté du Christ, est de vivre ce que Jésus avait commencé à vivre parmi eux. Et l'apôtre Jean, en quelque sorte, l'exprime dans cette phrase que nous avons entendue, si magnifique, si lumineuse. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, c'est-à-dire ce que nous avons vu en Jésus de Nazareth, ce qu'on voit quand on ouvre les évangiles aujourd'hui sur ces différentes pages, qu'on médite ces pages, si Dieu nous a aimés ainsi, nous aussi devons nous aimer les uns les autres à la manière de Jésus. Je pense que cette phrase-là résume ce qui est au fond le christianisme. Pas d'autre chose. C'est cet amour fraternel, lumineux, cet accueil des plus petits que Jésus a commencé à vivre parmi les hommes. Voilà. Nous sommes appelés à poursuivre cela aujourd'hui, à la mesure de nos forces et de l'aide que Dieu nous donne. Et quand nous parlons de l'Esprit Saint, nous allons vivre Pentecôte,
Mais l'esprit que Dieu veut mettre dans nos cœurs, ce n'est pas quelque chose un peu magique ou mystérieuse ou abstraite, troisième personne de la Trinité avec une formule bien trop grecque, on va dire. Non, c'est cette réalité telle que Jésus le vit, de village en village, sur la route de Galilée. Ce qui rayonne à travers la vie de Jésus, c'est ça l'Esprit Saint. C'est ça ce que Dieu fait en lui et qu'il veut faire en nous. C'est très concret, vous voyez, le Saint-Esprit. Et quand on dit que voilà, l'Église vit du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Église est que vivante s'il y a cet amour du Christ que nous partageons entre nous et que nous cherchons à partager avec les autres. Et c'est ça que nous voulons recevoir toujours à nouveau, cet Esprit-là, cet Esprit Saint, ce souffle-là. C'est rien d'abstrait, le Saint-Esprit. C'est très concret. Et c'est impressionnant quand on écoute l'apôtre Jean dans son épître dire « Si nous nous aimons ainsi, Dieu demeure en nous. Si l'amour fraternel circule parmi nous, Dieu est présent. » Nous qui cherchons souvent si Dieu si à l'extérieur de notre vie. Mais peut-être il circule parmi nous par cet amour fraternel décliné de mille manières. Et là, Dieu est présent parmi nous, ce n'est pas une autre réalité. Il y a des théologiens aujourd'hui qui affirment que le christianisme, comparé à d'autres religions, n'est pas une religion, mais qu'il y a une manière de vivre, une communion qui se crée entre les hommes où Dieu est présent. Les religions relient à une autre réalité, mais notre réalité est là, présente parmi nous. Il est là, et c'est l'apôtre qui le dit. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Dietrich Bonhoeffer disait qu'au fond, le chrétien n'est pas un homme religieux, c'est-à-dire des rites, des dévotions, de regards tournés vers notre monde. Dietrich Bonhoeffer disait, nous chrétiens, nous ne sommes pas religieux, au fond. Parce que Dieu veut que nous soyons pleinement vivants, pleinement hommes, femmes, à la manière du Christ, selon l'amour du Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, écrit l'apôtre Jean, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu est beaucoup plus à l'intérieur de notre vie que nous pensons. Il est dans nos cœurs, dans cet appel constant de nos profondeurs à l'appel à la bonté, à ce qui est vrai, à la générosité, à l'empathie, la solidarité avec ceux qui souffrent. Dieu est là, dans cet appel, à l'intérieur de nos vies. Il est présent. Pour le christianisme, peut-être le seul vrai temple, comme dit l'apôtre Paul, où Dieu veut habiter, est l'être humain. C'est nous. Cela m'amène au troisième texte de l'évangile de Jean, cette longue prière de Jésus pour ses disciples, qu'il dit donc à un moment tout particulier de sa vie quand il les quitte en quelques heures, même pour une dernière fois. Quelques heures après ce dernier repas avec ses disciples, il va être arrêté dans la nuit, condamné, ils seront séparés définitivement. Après, ils le feront crucifier et ressusciter plus tard. Mais ce sont des paroles essentielles, des gestes essentiels que Jésus va leur donner dans ce dernier rendez-vous avec ses disciples. C'est pourquoi ce qui se passe là est si important. C'est comme un testament que le Christ leur laisse. Et la première chose, le premier geste qu'il fait ce soir-là, j'aimerais le rappeler, est pendant ce repas pascal, de rompre le pain et le vin, de rompre le pain et de boire le vin avec eux, de dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang versé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Voilà le seul rite, peut-être avec le baptême à lequel il appelle comme Christ ressuscité, Matthieu 28, mais le seul rite que Jésus laisse à son Église. C'est Jésus n'a rien prévu pour l'organisation de son Église. Ce n'était pas bien plus important pour lui. Il aurait pu organiser un certain nombre de consignes. Il ne le fait pas. Mais il leur donne ce signe-là pour qu'ils se rassemblent en son nom et se laissent nourrir par lui. Ceci, prenez du pain, du vin, c'est la nourriture, mais c'est moi. Laissez-vous nourrir par tout ce que je suis, ce que j'ai vécu parmi vous. Cette fraternité, cette espérance, cette confiance dans le Père, laissez-vous nourrir par tout cela. C'est cela le sens symbolique si profond, si essentiel de ce que nous vivons en temps normal. Nous espérons de le revivre bientôt à nouveau, c'est peut-être pas pour demain, mais que dimanche prochain, il y aura Sainte-Cène, c'est Pentecôte, ce sera le culte des confirmants, ce sera Sainte-Cène, on restera sur place, dans les trois cultes, le matin à 9h à 10h30, avec les jeunes confirmants, et aussi le soir, bien que le soir aussi, donc il y a ce culte à 18h30. Nous avons été si privés, est difficile pour certains, pour d'autres ils le vivent autrement, mais c'est tellement fort et symbolique. Parce que quand nous nous mettons en cercle et nous prenons ce pain et ce vin, nous disons tous ensemble, celui par lequel nous voulons nourrir notre vie, spirituellement, humainement, c'est Jésus, sa manière de vivre, sa manière d'aimer. Son esprit qui était en lui, cette manière de regarder l'homme, les petits, les enfants, la femme, les lépreux, les exclus. C'est cela qui nous saisit, qui au fond, qui nous tire vers Dieu, vers le haut, les uns vers les autres. C'est cela par lequel nous voulons nourrir ensemble en communauté et chacun personnellement. C'est cela ce moment de la scène que nous vivons. C'est ça la symbolique profonde. C'est Jésus qui dit, je veux nourrir ta vie, toujours à nouveau, avec ma confiance en Dieu, avec mon amour. Et nous savons que pour Jésus, ça passait par des gestes très concrets, très physiques, je dirais. Au début, c'est l'autre geste qu'il laisse à disciples, comme un testament ce soir-là, c'est le lavement des pieds. Et ça restait dans nos mémoires. Il a fait ce geste d'un esclave ou de plus jeunes garçons ou des femmes faisaient seulement. Et c'est lui qui fait. Pour dire, parmi vous, il ne devra jamais avoir l'esprit de domination, d'être plus grand que les autres. Là, l'esprit du plus fort, mais l'esprit du service, d'humilité. C'est ça qui devrait que nous voulons vivre, être dans une relation humble les uns avec les autres, se faire serviteur de la communauté avec ce que je peux apporter. Et si je ne peux plus apporter, ou j'ai du temps d'autres choses concrètes, ou je l'ai fait dans le passé, aujourd'hui je peux apporter ma présence, je peux apporter ma prière, mon sourire aux frères. Des choses très, très simples et concrètes, nous dit Jésus, c'est ça, s'aimer les uns les autres. Et ce geste de lavement de pieds a marqué les esprits avant que Jésus les a quittés définitivement. La dernière chose, je termine avec cela, c'est donc cette prière que Jésus fait, une longue prière, on a lu seulement la moitié. Il y a deux prières de Jésus que nous connaissons dans les évangiles, il y a le Notre Père et cette prière-là. Il y a encore quelque part une louange, mais voilà, donc c'est une prière très précieuse que l'évangile de Jean nous donne. Mais c'est un des derniers actes que Jésus fait pour ses disciples avant de les quitter. Pas de consigne d'organisation pour demain, il prie. Il met leur vie sous le regard du Père. L'Église vit sa vie toujours sous le regard de Dieu, dans sa relation à Dieu.
Et Jésus nous dit là à ses disciples, c'est essentiel d'être une communauté, mais qui met toujours sa vie sous le regard de Dieu. Dans nos réunions, dans nos cultes de dimanche, bien sûr, dans nos vies personnelles, c'est ça être chrétien. Mettre ma vie sous le regard de cet amour plus grand que nous, qui nous dépasse, qui est toujours neuf. L'amour de Dieu est toujours nouveau pour notre vie. Et parfois, il faut juste se mettre là, en silence. J'ai eu la chance de vivre tout le mois d'avril dans l'église de Thésée, où au cœur de ses prières le matin, des frères de Thésée, une centaine au milieu de l'église, et ses frères, ces jeunes hommes, ou un peu plus âgés maintenant, on était peu autour parce qu'il n'y avait pas d'accueil, on était juste quelques personnes, quelques jeunes autour. Mais il n'y a pas de prédication dans ces temps de prière, il y a toujours un long silence. Un long silence. Et pas de réchauffement spirituel dans cette prière. Parce que dans ce long silence, chacun est placé devant Dieu, devant soi-même, avec tout ce qui nous traverse. Mais c'est un temps que j'offre, que ces frères offrent dans chacun de leurs prières. Il y a presque 10 minutes de silence à Dieu. Pour Jésus, il a vécu lui-même du regard du Père tout au long de sa vie. Mais c'est aussi dans la prière que Jésus vit cela. Et à cela, il nous invite aussi, parce que sinon l'Église devient une affaire humaine, de beaux projets de vie ou de beaux programmes. Non, elle n'est pas cela. Je termine, nous nous préparons à vivre Pentecôte. Que nous puissions rester fidèles à cette communauté que Jésus a voulu. Que nous puissions être une communauté qui cherche d'abord et avant tout, toujours à nouveau, à mettre en acte cette manière de vivre que Jésus a vécu parmi nous. Cet amour qu'il nous propose à vivre. Dans des actes concrets, humbles. Et que nous soyons une communauté qui met toujours à nouveau sa vie, personnellement et ensemble, en communauté, sous le regard de Dieu. Parce qu'au fond, c'est lui qui veut agir à travers nous et en nous. Créons des espaces pour lui. Peut-être dans le silence, où le sentons peut-être absent, même dans ce silence-là, il travaille nos cœurs. Amen.
C'est bien Olivier Messiaen dont vous venez d'entendre la musique, d'où cette modernité avec tous ces accords de parfois agités. Ce compositeur français ici de Paris, était bien connu, qui s'est toujours inspiré de sa foi chrétienne. Je crois que ce morceau, c'est aussi un de ces morceaux qui parle de Dieu demeure en nous, justement. Voilà. Nous allons chanter un de ces beaux cantiques de Pâques. Seigneur, en ta victoire, tu as détruit le mort, tu as marqué nos corps, ton esprit repose sur nous. Et je vous invite à vous lever et à chanter donc le 84, les trois couplets, ou les trois couplets.
Seigneur, dans ta victoire, tu as détruit la mort. Du signe de ta gloire, tu as marqué nos corps. Sur nous l'esprit repose, promesse de salut. Et mène toutes choses vers toi, Seigneur Jésus. Rassemble tous les hommes déjà tendus vers toi. Ils marchent vers l'aurore où resplendit ta croix. Tu vois ce peuple immense cherchant la vérité. Révèle ta présence, Seigneur ressuscité. Proclame ta parole, lumière pour nos vies. Rassemble tous tes membres, unis en un seul corps, et fais de tous les hommes tes instruments de paix pour restaurer le monde selon ta volonté.
On peut s'asseoir après ce beau cantique qui aussi réjouit notre cœur. C'est le moment des annonces. Je ne sais pas s'il y a des gens qui... Jean-Michel à prendre ici donc.
Bonjour à toutes et à tous. Sylvie et moi avons été heureux de vous accueillir ce matin à ce culte. C'est un plaisir. Quand je dis c'est un plaisir, je pèse mes mots, car c'est vraiment une joie de se sentir un peu utile, tant soit peu agréable. Et ce ne serait guère fraternel que de ne pas vous inviter d'ailleurs à remplir ce rôle de temps en temps d'accueillant. Il suffit pour cela de venir me voir à l'issue de ce culte, je vous inscrirai. Pratiquement, la semaine prochaine, Andreas vous l'a dit, il y a trois cultes, un à 9h, un autre à 10h30 ici même, et un dernier à 18h30 rue Madame. Pour le culte de 10h30, il manque encore deux amateurs pour accueillir nos frères et nos sœurs, donc précipitez-vous, il n'y aura pas de la place pour tout le monde pour accueillir. Merci à tous, je vous attends.
Bonjour, je m'appelle Taka, je vous annonce depuis à peu près une semaine, notre cantique « J'ai soif de ta présence » a été mis sur la ligne. S'il y a 34 millions de gens qui écoutent, il paraît qu'on peut toucher 3 000 euros. Et comme ça, on peut faire offrande à la paroisse. Mais ça m'étonnerait, 34 millions de gens qui écoutent notre « J'ai soif de ta présence ». Mais moi j'ai beaucoup, je regarde l'histoire de Petit Chaton ou recettes de cuisine, mais si vous en avez marre de tous ces trucs, écoutez cette vidéo. Il y a une grave erreur. Je ne sais pas ça vient de où, mais ça a été mis chorale de Pintement Luxembourg. C'est pas du tout chorale de Pintement Luxembourg, c'est uniquement volontaire de 13 personnes qui voulaient un peu changer quelque chose, donc on a chanté. On a bien rigolé, on a bien amusé, et c'est pas mal de tout. Donc écoutez et vous dites, ah, c'est pas mal notre église. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait. Mais c'est pas du tout l'église Pintement, chorale de l'église Pintement Luxembourg. C'est uniquement ces volontaires qui voulaient chanter. Au début, on était une trentaine, mais on est arrivé à la fin 13-14 qu'on a chanté. C'est Denise est là, si elle sait que ça a été mis à chorale de Pintement Luxembourg, elle va avoir un crise cardiaque. C'est pas le moment parce qu'elle vient d'être opérée, donc voilà, c'est pas de tout chorale de Pintement Luxembourg, mais c'est volontaire de chanter 626. Écoutez, c'est pas mal du tout. Voilà, merci beaucoup.
Je pense que vous avez vu que pour les cultes de dimanche prochain, 9h ou 10h30, que vous invite à vous inscrire hein, pour au niveau du nombre qu'on puisse gérer le mieux. Les choses, il y aura aussi la confirmation de le culte de 10h30, donc leur famille, on sera nombreux à 10h30 aussi déjà avec les familles des confirmants, parce qu'il y en a donc un baptême et 6 confirmations. Et voilà, inscrivez-vous donc pour ces deux cultes. Il y aura Sainte-Seine, comme je l'ai dit, on restera sur place, bien sûr, comme on l'avait fait une fois l'année dernière. Nous avons besoin un peu de personnes qui nous aident à ce moment-là, si vous serez là. Et vous sentez voilà, appelé à faire partie de la petite équipe qui distribue le pain et le vin, venez me le signaler tout à l'heure que vous êtes disponible pour cela, ou plus tard dans la semaine. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire? Non. C'est le moment de l'offrande pour la vie de l'Église. musicale puissante, n'est-ce pas, plein de symbolique théologique, ces quatre notes basses qui descendent là, c'est Dieu qui descend sur terre en majesté. C'est une musique profondément inspirée par la théologie chrétienne et qui impressionne. On va prier avec Anne Kulstoum.
Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, enrichi par ta parole qui nous porte dimanche après dimanche, nous déposons devant toi maintenant les peines, soucis, souffrances et autres maux du monde qui nous entourent. Nous intercédons pour que ta paix revienne dans les pays où des hommes se battent pour des territoires ou défendre un pouvoir injuste. Nous te prions pour que la pandémie qui a touché l'ensemble de notre planète et atteint beaucoup parmi les plus pauvres puisse régresser et disparaître, avec l'aide des chercheurs et de tous les soignants fortement sollicités. Accompagne chaque femme et chaque homme engagé dans ce long combat, ainsi que tous ceux qui en sont victimes. Nous te remettons aussi les migrants fuyant des gens des pays instables, où la fraternité reste un mot vide de sens. Permets qu'ils soient accueillis en frères quand ils frappent à nos portes, et aide ceux qui s'en occupent. Veille aussi sur toutes les jeunesses frappées par les aléas des confinements et qui ne voient dans l'avenir que doute et incertitude. Envoie ton esprit pour qu'ils reprennent confiance et avancent sans crainte vers leur devenir. Dans la perspective des réouvertures annoncées, redonne courage, détermination et enthousiasme aux créateurs, artistes et inventeurs, pour que nos vies, grâce à eux, se renouvellent en émerveillement. Enfin, nous te remettons les incompris, les isolés, les indigents et autres personnes marginales. Seigneur, fais grandir et élève nos cœurs pour accueillir chacune et chacun en ton nom et en vraie fraternité. Ce qui nous permet de te dire maintenant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole et la bénédiction et ensuite nous chantons le cantique 266. Une parole toujours lumineuse de Frère Roger de Thésée. Jésus, notre joie, quand nous comprenons que tu nous aimes, quelque chose de notre vie est apaisé et même transformé. Nous te demandons, qu'attends-tu de moi? Et par l'Esprit Saint, tu réponds, que rien ne te trouble. Je prie en toi, ose le don de ta vie. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie, de toute paix par la foi, afin que nous débordions d'espérance dans la puissance de l'Esprit. Amen. Chantons.
Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ses pas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur.
Il faut rechanter les deux couplets une deuxième fois, et on va vraiment s'approprier ces paroles le plus possible avec notre cœur. On va le chanter une deuxième fois.
Donc, gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur et ses bras jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur.
Bon dimanche à tous et à très bientôt pour la fête de Pentecôte, un des trois cultes que vous pouvez choisir. Prenez soin de vous. À très bientôt.